quoi de plus intime, quoi de plus personnel que la prière? Quoi de plus mystérieux quand cette prière est celle de Jésus lui-même? C'est le secret de cet évangile, certainement l'un des sommets de toute l'Écriture, que de nous rendre témoins, non seulement témoins oculaires, si je puis dire, mais auditeurs de cette prière de Jésus. Prière infiniment mystérieuse, puisqu'il l'adresse à son Père. Mais prière qui en rien ne nous est fermée, puisque vous l'avez remarqué, nous nous trouvons constamment inclus nous-mêmes dans cette prière. Est-ce que parce que Saint Bernard fut un homme de contemplation, s'il en est, que la liturgie veut nous présenter cet évangile ce matin? Ou bien est-ce parce qu'il est l'un des saints de l'ordre cistercien les plus représentatifs, les plus emblématiques, ce qui signifie celui, l'un de ceux qui a le mieux incarné le charisme de Cîteaux? Je ne sais. Toujours est-il qu'il y a quelque chose de frappant dans cette prière que nous avons entendue à l'instant, cette prière de Jésus, qui revient avec une insistance que l'on ne peut pas ne pas remarquer, qu'il soit un. L'unanimité qui a été tellement un idéal, et qui le demeure évidemment, de nos premiers pères cisterciens. Toute la charte de charité va dans ce sens. Elle qui, dans son chapitre 3, résume tout l'esprit de nos premiers pères dans leur réforme cistercienne, une règle, une seule charité, un seul et même unique mode de vie. Tout cela pourrait paraître assez théorique et peut-être même dangereux, car il pourrait s'agir tout simplement d'une discipline extérieure ayant pour seul but d'uniformiser des personnes. Bien évidemment, la lecture de l'évangile de ce matin vient contredire cela. Ce qui est en cause, c'est la naissance, puis la croissance et l'approfondissement constant d'une communion qui est d'abord le mystère de notre Dieu, trois fois saint, un lui aussi, en trois personnes. Une communion que nous sommes nous aussi appelés à vivre. Une communion à laquelle le Fils veut nous faire participer. Et cette communion ne peut pas être une uniformisation. Le mystère même de la communauté est tout en harmonie. Il est, on peut dire, symphonique. Chacun y trouve sa place, une place qu'aucun autre ne peut tenir à sa place. Une place qui précisément permet à chaque membre de grandir dans son appel et ainsi de faire grandir l'ensemble du corps communautaire. Voilà finalement le grand projet de nos pères cisterciens, dont Saint Bernard, comme je le disais, est l'un des plus beaux, l'un des plus emblématiques représentants. Arrêtons-nous un instant sur deux phases de cette prière de Jésus qui inspire notre contemplation ce matin. Et bien précisément, Jésus demande à son Père que nous, ceux qui viendront après, dont il a parlé, au début de sa prière. Il prie non seulement pour ses apôtres, mais pour tous ceux qui viendront ensuite, c'est-à-dire nous. Eh bien, Jésus demande à son Père que nous puissions être avec lui, là où il est lui-même, pour, ajoute-t-il, contempler sa gloire. Eh bien, certainement, le premier mouvement, c'est précisément celui de la contemplation. Le mot fait peut-être peur. En fait, il est beaucoup plus simple que l'on croit. Contempler, c'est s'ouvrir à un autre, c'est s'ouvrir à sa parole, c'est s'ouvrir à son mystère. Et si l'évangéliste Jean nous confie ce matin cette prière, c'est bien justement parce que nous sommes habilités à être introduits nous-mêmes dans cette contemplation. Mais contempler ne pourrait suffire, ou du moins, contempler nécessite toujours de s'incarner dans la vie. Contempler ne signifie pas s'abstraire de la vie. Ou du moins, si elle l'est pour un instant, c'est pour y revenir, et y revenir à plein, y revenir totalement, avec tout son être régénéré. Régénéré par cette contemplation qui nous fait brûler comme Saint Bernard, qui nous fait brûler d'amour. Le deuxième mouvement après la contemplation, c'est le partage de l'amour reçu par la contemplation. Et voilà que nous retrouvons ici tout le mystère, bien sûr, de la vie chrétienne et de la vie monastique en particulier. Saint Bernard a brillé par bien des aspects de sa vie. Il fut très certainement, simplement déjà au niveau humain, un véritable génie, un géant à son époque. Mais ce que par-dessus tout les générations ont retenu de lui, c'est cette ferveur de l'amour, c'est cette capacité à transmettre ce que lui-même recevait de sa contemplation. Eh bien, sachons nous glisser, si je puis dire, à sa suite, parce que cette contemplation, elle nous est offerte à nous aussi, et elle nous est offerte parce que tout simplement elle est indispensable, elle est absolument nécessaire si nous voulons vivre réellement de l'amour de Dieu et devenir ce que nous sommes déjà par vocation, un en lui.